Avec podcast numéro 12, Claude Boucher.
On est rendu là.
Et dans un, ça va être 13.
Oh, c'est le malchanceux la semaine prochaine.
T'as dû penser à ça. Après ça, ça va être 14.
Et tu sais-tu quoi? Probablement que... Ben, on va peut-être faire le 14e avant la pause des fêtes, parce que la pause des fêtes, ça s'en vient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Oui.
Oui, il reste, écoute, deux fins de semaine. Puis après ça, c'est la pause des fêtes.
Si tu permets, on va peut-être y aller d'ailleurs avec ce sujet-là en premier, puisque tu parles de pause des fêtes. Et on va venir aux cataractes par l'effet entonnoir ensuite. Mais il y a 8 joueurs de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui vont auditionner pour un poste avec équipe Canada Junior. Et le lien est là. Le tournoi se déroule dans le temps des fêtes.
Et évidemment, ça débute toujours le lendemain de Noël, le 26 décembre. Et cette année, c'est en Colombie-Britannique, à Vancouver et à Victoria, que seront joués les matchs. Et c'est une bonne nouvelle qui est tombée cette semaine, parce que 8 de la quelques trentaine de joueurs invités au camp final d'équipe Canada Junior, 8 de ces joueurs proviennent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et sur les 8, il y en a 6 qui proviennent du Québec. Les Vultures de Drummondville seront peut-être les plus déplumés pendant la période des fêtes, ouais. Parce qu'ils perdent 3 joueurs, soit les attaquants Joe Valeno et Maxime Comtois et le défenseur Nicolas Baudin, qui vont représenter donc les Vultures. Il y a aussi Raphaël Lavoie, qu'on a vu d'ailleurs à Shawinigan en fin de semaine. Moi, sincèrement, en fin de semaine, je l'ai trouvé très impressionnant dans le match entre les Cataractes et les Moussettes. Sans surprise, Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski est invité, même s'il n'a que 17 ans. Tu ne peux pas passer à côté d'Alexis Lafrenière. Là. Puis écoute, honnêtement, s'ils ne le prennent pas, je me demande quelle lubie va leur passer par la tête. Noah Dobson du Titan de Cats Batters, Jared McIsaac d'Halifax et Pierre-Olivier Joseph des Islanders de Charlottetown, ce sont les autres joueurs. Écoute, McIsaac aussi, on le voit en fin de semaine. Une valeur sûre, je pense, pour l'équipe canadienne junior, si évidemment il fait le camp. Noah Dobson était dominant la saison dernière à seulement 17 ans, alors pas vraiment de surprise de ce côté-là. Mais 8 sur la trentaine, là, 8 des 34 joueurs invités, c'est presque le tiers qui proviennent de la Ligue junior majeure du Québec. Ben, tant mieux. Et si jamais il devait y avoir 7 des joueurs qui se faisaient une place au sein de l'équipe, ben, ça égalerait le record établi il y a de ça quelques années pour le nombre de joueurs de la LHJMQ dans l'équipe Canada Junior.
Et ça va être surveillé assurément. Puis tu parlais il y a quelques instants de Maxime Comtois. On s'en est parlé dans les podcasts précédents et finalement revenu avec les Voltigeurs après être passé par la Ligue américaine. Je n'ai pas trop compris pourquoi on le redescendait. Là,
mais... Ben écoute, j'en parlais avec Steve Turcotte en fin de semaine. Oui. Steve disait que c'est une question de contrat, puis tout ça, puis de plafond salarial un peu du côté des Ducks d'Anaheim. Donc, on a retourné Maxime Comtois au junior majeur. Puis écoute, à 19 ans, c'est que je pense que s'il ne le gardait pas dans la Ligue nationale, ils n'avaient pas le choix de le retourner dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là, mais... Ben écoute, c'est une bonne nouvelle pour les Voltigeurs, parce qu'on le sait, les Voltigeurs ont de très grandes ambitions pour le printemps prochain. Puis c'est une bonne nouvelle aussi par la bande pour les Tigres de Victoriaville, parce qu'eux peuvent garder les choix de repêchage qu'ils avaient obtenus en retour de Maxime Comtois et donc rebâtir l'équipe plus vite. C'est le contraire de ce qui est arrivé ces dernières saisons avec les Cataractes de Shawinigan qui auraient transigé Samuel Girard, ben ouais, Anthony ça. Beauvillier, tout ça, mais... ils sont restés dans les rangs professionnels. Donc, les Tigres, eux, ont pu avoir des joueurs pour se rebâtir en échange de Maxime Comtois.
Et ça sera bon pour la Ligue aussi, sans dire qu'il fait peut-être déplacer les foules autant qu'un Lafrenière ou un Patrick Roy ou un autre. Tu vas voir l'ensemble de l'équipe quand même quand tu vas voir que c'est Drummondville qui est en ville, justement. Tu seras peut-être tenté davantage de te déplacer à ton aréna locale.
Ben écoute, si tu as les Voltigeurs de Drummondville qui s'amènent dans ton aréna, tu peux t'attendre à avoir une excellente formation de hockey. Puis d'ailleurs, ça m'amène, Marc-André, à parler des matchs de la fin de semaine dernière à Shawinigan, parce que, tu sais, oui, les Cataractes ont perdu 2 fois devant leurs partisans. C'est plate, puis on aimerait ça que l'équipe gagne à domicile. Mais on va rendre aux adversaires ce qui leur revient. Les Wildcats de Moncton et les Moussettes d'Halifax, 2 des meilleures équipes au Canada. Puis on l'a vu en fin de semaine. Pourquoi? Moncton dominant dans tous les aspects du jeu contre les Cataractes, que ce soit physique, offensif, défensif. Et juste au niveau des gardiens de but, où c'est Lucas Fitzpatrick qui gardait le filet, qui a tenu son bout. Puis même, écoute, à venir jusqu'en milieu de partie. Les Cataractes, je dirais pas à côté les Wildcats, c'est pas ça nécessairement, mais ils donnaient quand même pas mal de fil à retordre. Écoute, la première période, ils ont eu autant de chances de marquer, sinon plus, que les Wildcats de Moncton, mais Moncton, une équipe plus mature, plus d'expérience, a profité de ses chances. Ce que les Cataractes n'ont pas pu faire, puis en deuxième période, ben, quand les écluses se sont ouvertes, ben là, les Wildcats ont mis le pied au plancher. Puis écoute, Halifax, vendredi soir, encore là, première période, où les Cataractes tenaient leur bout, menaient par ailleurs 1-0 après une période contre les Mooseheads. Mais en deuxième période, les Mooseheads sont passés à une vitesse supérieure et les Cataractes ont à peu près plus touché la rondelle du reste de la partie. Bref, c'était deux gros adversaires que les Cataractes affrontaient à domicile en fin de semaine. Ça s'appelle mettre de l'expérience en banque.
Oui, exactement. Et puisque tu parles des matchs du week-end, il me semble, puis je vais emprunter une expression totalement québécoise, mais il me semble qu'il y a quelques matchs qui étaient cochons. Ça jouait cochon.
Ben, écoute, j'aime pas dire ça, Marc-André, mais parlons de Moncton, parce que le match contre Halifax, ça a été quand même assez propre, merci, mais le match contre les Wildcats de Moncton, ce que j'aime pas dire, c'est quand les officiels ont, selon moi, une incidence sur le match. Et on l'a vu dans la première minute de cette partie-là, ils ont pris une décision, les quatre sur la glace, qui a eu une influence sur la suite du match parce que Gabriel Sylvestre a asséné une mise en échec qui était dangereuse à Jérémy Martin.
Un ancien des quatre, d'ailleurs.
Oui, effectivement. D'ailleurs, Martin qui a quitté le match après la première période, pas blessé parce qu'il était là le lendemain. Sylvestre, d'après moi, aurait dû avoir un 5 minutes de pénalité, donc une expulsion automatique du match.
Ouais.
Les officiels n'ont rien appelé et à partir de là, c'est comme si on avait un peu donné le droit aux Wildcats de brasser les Cataractes sans qu'il y ait de pénalité. Puis plus tard, en première période, c'est Vincent Sonné qui, lui, donne une mise en échec. Écoute, Steve Turcotte m'a montré les reprises vidéo des deux mises en échec. Sonné frappe l'adversaire à la poitrine, le contact initial, et après, ça va plus haut vers le corps. Mais le contact initial, c'est la poitrine.
Ouais.
C'est une mise en échec légale. Les officiels, ben, tu sais, Vincent Sonné est un peu marqué par les officiels. Alors, ils ont donné en 5 minutes, expulsion automatique, suspension de 4 matchs par la suite parce qu'il y a des codes 4 d'accumulés depuis le début de la saison. C'est ça. Alors, pour Vincent Sonné, un retour prévu le 12 décembre prochain. Puis en ce qui concerne Gabriel Sylvestre, même s'il n'a pas été puni sur le jeu, les Cataractes ont envoyé la vidéo à la Ligue.
Ouais.
Et il a écopé 3 matchs de suspension.
Mais, ça,
mais sa mise en échec était directement à la tête de Jérémy Martin. Dans l'angle mort, il a pris des enjambées pas mal plus dangereuses que la mise en échec de Vincent Sonné, qui paye pour sa mauvaise réputation.
Puis je vais m'en permettre, Claude, là-dessus, parce que ça me fait lever d'un pied quand je vois les circonstances de mise en échec comme celle-là, tu sais, celle de Gabriel Sylvestre. Puis autant on l'aimait à Shawinigan que maintenant on a compris qu'il était rendu dans le clin demi. Sauf que, quand tu regardes ça, la punition n'est pas appelée pendant le match. Par contre, ensuite, on donne des matchs de suspension.
Ouais.
C'est faut-tu que les arbitres l'aient manqué pas à peu près?
Ils l'ont manqué. Ils l'ont manqué. Oh oui. Puis tu sais, mettons là, exemple, ils donnent un 5 minutes à Gabriel Sylvestre.
Ouais.
En tout début de match, c'est survenu, il n'y avait même pas une minute de jouer. Mettons que les Cataractes en profitent, marquent un but ou deux, prennent les devants dans le match, ça donne un petit peu de momentum. Là, c'est pas ça qui est arrivé. Les Wildcats, ben, ont pu continuer à brasser un petit peu. Sylvestre, par après, on va lui donner ça, a joué un match propre par la suite, a même été brillant dans son territoire. C'est un vétéran.
Oh oui.
A préparé quelques buts de son équipe, a joué un très, très beau match par la suite, mais ce geste-là aurait dû être puni et il aurait dû être sorti. Mais c'est pas ça qui est arrivé.
Ouais. En tout cas, c'est bien décevant.
Mais je le répète, j'aime pas ça dire que les officiels ratent un jeu, mais ça me semblait évident.
Ouais. Ce qui est moins décevant, par contre, c'est la performance d'Antoine Coulombe, le gardien recrue qui... vraiment, depuis quelques semaines, là, je trouve, a, comment dire, gagné le niveau le junior majeur. Tu sais, il y a toujours une certaine période d'adaptation. Je pense que c'est encore plus difficile pour les gardiens de but. Mais là, tu sens qu'il est devenu un gardien de but du junior majeur.
Oui, oui, tout à fait. Écoute, en fin de semaine, il a été étincelant. Premièrement, il est venu en relève à Luca Fitzpatrick en 3e période du match contre les Wildcats. Samedi, contre les Mooseheads d'Halifax, il a accordé 4 buts, mais absolument rien à se reprocher. Je pense qu'il a fait 37 arrêts. Puis écoute, il a volé le match à Gatineau samedi, on va être honnête. Encore là, une 40aine d'arrêts, 43 si je me trompe pas, dans une victoire de 3-2. Écoute, seulement que la 2e victoire cette saison pour les Cataractes sur la route. Et Antoine Coulombe a mérité la première étoile à Gatineau samedi soir. Ben écoute, ça met de la compétition, ça met de la pression sur Luca Fitzpatrick. Ben écoute, je me demande, je pousse même ça plus loin parce que, bon, j'ai pas en mémoire là c'est quoi la relève chez les Cataractes au niveau des gardiens de but, mais est-ce que ça pourrait pousser Martin Mondou à transiger Luca Fitzpatrick à la période des fêtes? Je sais pas.
T'sais. C'est bon que tu amènes ce point-là parce que c'est ce que je me demande depuis, mettons, 2-3 semaines. Là. Fitzpatrick est mieux qu'il était en début de saison. Par contre, ne fait pas souvent la différence. C'est sûr que c'est difficile, mais quand même,
c'est ça,
souvent,
c'est...
il n'est pas un facteur dans le match.
C'est les gardiens, dire, sont, ils sont quand même tributaires des joueurs qui sont devant eux.
Ouais.
Dans la défaite de 7-1 contre Moncton, Luca Fitzpatrick n'a pas été mauvais. Là. Il n'y avait rien à se reprocher. À un moment donné, ça venait de tout bord, de tout côté. Puis les Cataractes étaient débordés. Il a été mauvais sur aucun des 7 buts des Wildcats. Malgré ça, ben, c'est sa fiche qui en mange une claque.
Ouais.
Ça paraît mal quand tu donnes 7 buts dans un match. C'est pas de sa faute si Léon Denis a fait dévier une rondelle dans son filet en troisième période. Mais ouais, c'est ça. Mais je le répète, les gardiens sont tributaires pas mal des performances des joueurs devant eux. Puis, tu sais, veut, veut pas, les Cataractes, encore en fin de semaine, c'était une quarantaine de lancers par match et plus. À un moment donné, les gardiens de but, même s'ils en arrêtent 35, puis s'il y a eu 43 lancés, ça fait 8 buts.
Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais par contre, le débat est bon, puis le questionnement est bon aussi de dire... quel est l'avenir à court terme ou à moyen terme de Lucas Fitzpatrick avec cette équipe-là? Puis quand tu parles de relève, moi, ce qui me vient en tête, puis c'est peut-être un scénario hypothétique, mais je me dis, est-ce que ce serait possible de prendre Matthew Waite, qui appartient encore aux dernières nouvelles aux Cataractes?
Oui, effectivement.
De l'amener comme adjoint à Coulombe et de donner le fil à Coulombe d'envoyer Fitzpatrick ailleurs.
Écoute, je le sais pas, mais moi, je me dis... Écoute, là, je spécule. C'est juste des impressions qui me passent par la tête. Là. Est-ce que Martin Mondou pourrait pas être tenté de garder Fitzpatrick à Shawinigan toute la saison et le transiger après la fin de la saison régulière, après les séries?
Ouais.
Je sais pas. Quand Coulombe aura pris une année d'expérience avec un vétéran gardien devant lui, quoique Fitzpatrick en est juste à sa deuxième saison, et puis après ça, Coulombe, tu lui donnes le filet la saison prochaine. Je sais pas. T'sais, je pense que Luca Fitzpatrick aura quand même une bonne valeur à la fin de la saison, mais je le répète, là, on ne fait que spéculer.
Ben, c'est pour ça ce podcast-là, Claude.
Tout à fait.
Entre autres, pour dire soit des niaiseries ou des réflexions savantes. Mais dans tous les cas, la question est bonne de savoir, est-ce que Fitzpatrick, par exemple, dans le scénario où il serait transigé, aura une meilleure valeur, par exemple, à la période des fêtes qui s'en vient ou l'été prochain à la veille du repêchage.
Puis, il y a une autre partie dans tout ce qu'on vient de dire sur les possibles transactions, c'est quels seront les besoins des autres équipes.
Aussi.
Une équipe qui est, d'habitude, une équipe qui déjà est bâtie pour aller loin est quand même assez bien ferrée en termes de gardien de but. Ça reste à voir.
Mais des fois, il y en a un qui déçoit, qui faisait partie des plans. Et peut-être. C'est là que Fitzpatrick peut-être entrer.
Mais ça reste encore un jeune gardien de but qui a encore beaucoup de développement à aller acquérir.
Absolument, absolument. Ce serait intéressant à surveiller, en tout cas, dans les prochaines semaines. Sur nos ondes, les prochains rendez-vous?
Écoute, en fin de semaine, ouf, ça sera pas facile.
Ah non?
Non, l'Océanique de Rimouski à Shawinigan, vendredi soir, sur le coup de 19h15 sur nos ondes. Écoute, on a juste à dire Alexis Lafrenière qui s'en vient à Shawinigan. C'est sûr et certain que ça va attirer du monde, mais ça fait que l'Océanique, avec lui, avec les Avgorodny et un paquet d'autres joueurs, c'est un adversaire qui sera pas facile. Et dimanche, à Drummondville contre les Vultures. Dernière fois que les Cataractes sont allés là, c'était en début de saison.
C'était pas ça le 10-1?
Non, t'es dans l'erreur, Marc-André. C'était 12-1.
Ah, ben écoute, j'essayais de donner une chance.
Et Maxime Comtois n'était pas là. Mais par contre, les Cataractes ont pris du poil de la bête depuis ce temps-là. Ça s'est grandement replacé. On donne encore beaucoup de lancers. Bref, ce ne sera pas la même chose à Drummondville dimanche. Et dimanche, ce match-là, c'est avec émission l'avant-match à compter de 14h45.
Ah oui, le match est à 15h?
Ouais.
Ah oui, hein? Excellent, excellent. Et à nouveau en compagnie de Steve Turcotte, mais écoute, tu fais juste nommer les adversaires que j'étais un peu découragé d'avance. On va souhaiter le meilleur aux Cataractes et je suis convaincu que les gardiens aussi vont devoir être prêts.
Oui, puis en même temps, si on revient sur la fin de semaine passée, une victoire en 3 matchs, les Cataractes ont gagné le match qui était le plus abordable pour eux. Moi, sérieusement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils battent les Wildcats de Moncton et les Moussettes d'Halifax, même si c'était à domicile. C'est décevant, mais quand même, c'est pas très, très surprenant. Mais quand même, 1-3 en fin de semaine,
c'est
quand même bien.
Et l'idée, c'est d'être compétitif et de tenir son bout pendant une bonne période. T'sais, on sait très bien que la crème des équipes qui sont à maturité va finir par remonter à un moment donné. Mais l'idée, c'est que les Cataractes se défoncent, puis ça, je pense qu'ils l'ont compris depuis quelques semaines déjà.
Voilà.
Claude, merci. À la prochaine.
Bonne semaine.
Merci aux gens qui ont écouté ce podcast.